Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Yves Calvi.
7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez la première radio de France. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin.
Bonjour à vous Gérald Darmanin.
Bonjour.
Et merci d'être sur RTL ce matin. Un mot des impôts, puisqu'on est en train de remplir la déclaration, en tout cas en ligne, en papier c'est fini. Date limite ce soir d'ailleurs pour les départements de 20 à 49.
Voilà, de la Corse au Maine-et-Loire.
Voilà, ce soir minuit c'est terminé, et puis ensuite de 50 à tous les autres, au-dessus de 50, ce sera le 5 juin, la date
exactement.
Limite. D'accord. Gérald Darmanin, à ce stade, pour le prélèvement à la source, à ce stade, hein, qu'est-ce qu'on a à faire? Rien quand on remplit sa déclaration d'impôt pour l'instant.
On a à s'y intéresser, c'est oui. Déjà pas mal, puisque ce qu'on va changer, ce n'est pas le mode de calcul de votre impôt, c'est la façon, finalement, de le payer. À partir de janvier 2019, vous paierez vos revenus qui correspondront au mois de revenus 2019, janvier 2019.
Pour les premiers choix, les premières décisions relatives à cet impôt à la source, éventuellement, ce sera quoi? Rendez-vous en septembre, c'est ça?
Vous aurez non. À partir du moment où vous remplissez en ce moment votre feuille d'impôt, vous avez vos taux. Vous avez trois types de taux que vous pouvez choisir. Ce sera une grande simplicité.
On choisit quand?
Vous allez en tout cas là avoir une indication de ces taux. Votre taux d'imposition de l'année 2018, le taux individualisé dans votre couple par exemple. Vous aurez le droit de choisir entre la personne qui partage votre vie si vous êtes le même foyer fiscal et puis le taux dit neutre qui pourra être de le taux que vous pourrez donner éventuellement à votre employeur ou à votre caisse
de
retraite.
C'est quoi un taux neutre?
C'est
taux
que vous n'avez pas envie que votre employeur connaisse.
Impôts, mais c'est quoi le neutre?
Non, vous n'avez pas envie.
Anonyme. C'est ça.
C'est un taux qui permet d'anonymiser votre taux d'imposition. Si vous n'avez pas envie, par exemple, que votre employeur connaisse votre taux d'imposition, on ne peut pas savoir grand-chose derrière un taux d'imposition. On peut imaginer que des gens n'aient pas du tout envie que votre employeur connaisse ce taux d'imposition. RTL, par exemple, vous leur donnez le taux neutre et après vous régulariserez avec les impôts.
C'est pas moi qui donne le taux neutre.
Vous choisirez le taux neutre et automatiquement on le donnera à votre employeur.
C'est moi qui choisis le taux
neutre. Vous direz aux impôts.
Moi, je veux un taux neutre. Ben, tiens, je veux seulement 10% de.
Oui, mais vous régulariserez après. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, 90% des Français, ils ont un taux entre 0 et 10. Bon, puis je rappelle que quasiment 50% des Français, ils ont un taux à zéro, hein, puisqu'ils ne payent pas d'impôt sur le revenu. Donc ça concerne les 10% de gens qui ont des revenus qui sont très différents par rapport à ceux que leur entreprise leur verse, par exemple, et parce qu'ils ont des revenus fonciers, parce qu'ils ont quelqu'un dans le couple qui gagne bien plus ou bien moins qu'eux, qui n'ont pas envie que derrière un taux très hypothétique pour savoir ce qui se passe derrière, on connaisse leur vie, et bien donner un taux neutre, on respecte la confidentialité si quelques-uns d'entre nous ne veulent pas donner cette petite part d'intimité qui est leur taux d'imposition.
Pour être clair, parce qu'on y reviendra largement, on fera une émission avec Yves Calvi à la rentrée hein, sur l'impôt à la source, on dira tout aux auditeurs, mais le taux neutre, on me dit qu'on choisit, ce sera quand? Quand est-ce que je choisis mon taux neutre? Oui. Maintenant ou en septembre ou en 1er janvier?
Non, mais à la rentrée, vous m'invitez au mois de septembre, on aura l'occasion d'entrer dans ce détail, effectivement, il y aura une échange automatique de données avec vos employeurs, vous ne ferez rien d'autre que de choisir ce que vous avez envie, effectivement, que votre employeur connaisse.
Échange automatique avec l'employeur, rendez-vous en septembre pour ce choix.
Enfin, l'employeur ou celui qui vous paye, la caisse de retraite par exemple.
Ou la caisse de retraite. On y reviendra bien sûr. Gérald Darmanin, il y a combien d'aides sociales ou d'allocations aujourd'hui en France?
Il y en a beaucoup, alors je sais le nombre exact, je ne sais pas.
Le ministre du budget ne sait pas combien.
Non, parce que je pense que ça dépend beaucoup aussi
de
si vous mettez les aides des collectivités locales. Ce qui est certain, c'est qu'il y en a trop, qu'elles font parfois des trappes à inactivité, qu'elles sont parfois contradictoires. Parfois, les gens qui devraient avoir ces aides sociales, je le sais en tant qu'ancien maire de Tourcoing, ne les demandent pas parce que c'est complexe. Et ces aides sociales, elles ont souvent été construites de manière plus d'un processus administratif que pour vraiment aider les gens, soit à sortir de la misère. Parce qu'il y a des aides sociales aujourd'hui de gens qui sont cassés par la vie, des gens qui sont des adultes handicapés, qui malheureusement ne peuvent pas reprendre le travail. Le minimum vieillesse, ce sont des aides sociales de solidarité légitime que nous augmentons dans le programme du président de la République. Et puis il y a des aides sociales qui permettent d'attendre le moment où on est entre deux périodes d'activité. Et malheureusement, elles ne sont pas assez incitatives, parfois, pour sortir de cette inactivité.
Vous parlez de la prime d'activité dont vous avez annoncé qu'elle allait être réduite?
Il y a plusieurs. Non, je n'ai pas annoncé qu'elle était réduite. J'ai dit qu'il fallait que nous réfléchissions à notre système social, notamment sur ce deuxième point, comment on activait mieux, comment on incitait mieux les gens à reprendre un travail, comment on évitait les trappes à inactivité. On a un système social qui, malheureusement, n'a pas réglé le problème de la grande pauvreté en France. Et qui n'a pas réglé non plus le problème de l'activation vers le travail. Soit parce que les gens manquaient de qualification, soit parce qu'ils manquaient de mobilité géographique, soit parce que le cumul des aides et les salaires bas vous empêchent pas parce que vous le voulez, mais parce que c'est simplement le calcul que vous faites, de reprendre un travail. Je pense à toutes ces femmes qui élèvent 2-3 enfants, je les connais dans le quartier de la Bourgogne par exemple, à Tourcoing, qui entre le mode de garde des enfants, le salaire bas qu'on leur offre, les transports lointains et les aides sociales qu'elles ont aujourd'hui ne peuvent matériellement pas reprendre un travail alors qu'elles aimeraient le faire. Donc je pense qu'il est normal de revoir ce système de social sans jamais diminuer les prestations individuelles des gens.
Vous dites que c'est un système efficace, c'est un système qui est généreux mais qui n'est pas toujours efficace. Mais quand même, on n'a pas tout compris de la philosophie du gouvernement sur l'avenir de ces aides sociales. Vous affirmez dans Ouest France, ce week-end, individuellement, les gens ne doivent pas voir baisser leurs prestations. Donc, quelles que soient les prestations, quels que soient les prestataires, enfin les bénéficiaires, il n'y aura pas de baisse pendant le quinquennat.
Mais nous les augmentons.
Non mais alors,
au mois d'avril.
Soyons clairs, de quelles prestations sociales individuelles parlez-vous? Ce sera plus clair. Parce qu'en plus, il y a une contradiction avec Bruno Le Maire.
Il y a deux types.
Non, c'est une prestation sociale individuelle qui ne sera pas touchée pendant le quinquennat.
Il n'y a pas de contradiction avec Bruno Le Maire. J'ai souligné que, bien sûr, il fallait revoir le système d'aide sociale sans toucher aux aides sociales individualisées. On y reviendra dans quelques instants, c'est votre question. Et dans un deuxième temps, il fallait aussi toucher aux aides aux entreprises. Parce que quand il y a une période de croissance économique, c'est normal, je prends l'exemple des aides aux entreprises, c'est 140 milliards l'assiette. Et il est normal de pouvoir aussi dire aux entreprises, on baisse vos impôts. Et comme vous voulez vivre du fruit de votre travail et pas des subventions publiques, il est normal aussi de revoir ce système. Bien. Donc, pour les aides sociales, vous avez deux types d'aides sociales. Vous avez celles, encore une fois, qui reviennent de la solidarité nationale. Quand on augmente le minimum vieillesse, comme on l'a fait au mois d'avril dernier, pour passer de 830 à 835 euros, parce que les gens ne peuvent pas reprendre un travail, ils sont dans une situation de pauvreté, c'est la promesse du président de la République. Et chaque année, on augmentera pour augmenter de 100 euros.
Minimum vieillesse, allocation handicapée,
c'est le cas
de l'allocation, vous l'avez
augmenté. L'allocation adulte handicapé.
Les APL, est-ce que c'est une prestation sociale individuelle?
Vous me permettez, oui. Madame Martichoux, ça, c'est donc effectivement les gens qui sont dans une difficulté, ils ne peuvent pas reprendre le travail et la nécessaire solidarité nationale doit s'exprimer par une augmentation de leurs prestations, c'est le en même temps du président de la République, et nous avons fait des efforts budgétaires pour que ces prestations augmentent comme jamais elles n'ont augmenté sous aucun gouvernement. Et puis il y a ceux qui touchent des prestations sociales dans l'attente, j'allais dire malheureusement, d'avoir pas pu retrouver un travail. Pourquoi on ne trouve pas un travail en France? Il y a plusieurs raisons. Il manque de qualifications, c'est le plan Pénicaud. Il y a la mobilité géographique, c'est tout le travail qu'on fait autour de cela. Et il y a aussi des moments où il y a des trappes à inactivité. Il y a des moments où vous n'êtes pas incité à reprendre du travail. Qu'est-ce qu'on a fait dans notre système actuel? Au lieu de se poser la question de l'aide sociale unique, nous, ce que veut le président de la République, c'est une allocation sociale unique qui évite de se dire qu'il y a une multiplicité d'allocations qui sont parfois contradictoires dans ces objectifs.
Donc vous ne savez même pas combien il y en a d'ailleurs.
Il y en a beaucoup et ça dépend des régions, ça dépend des communes. Moi-même, dans ma commune, j'en ai mis en place pour aider notamment les personnes handicapées.
Il y a les locales et les nationales.
Mais oui, mais tout ça, les gens cumulent, évidemment, et c'est normal d'ailleurs. Donc il faut faire une aide sociale unique et il faut, une fois qu'on a cette aide sociale unique, avoir cette différence avec le salaire. Je prends l'exemple de la prime d'activité. La prime d'activité...
C'est le complément de revenu pour les travailleurs pauvres ou modestes. Hein,
oui, pour les gens qui appartiennent entre 0,5 et 1,3 SMIC, pour parler très technocratiquement. Mais quand vous reprenez un travail, vous avez le droit à une prime d'activité qu'on a d'ailleurs augmentée. En 2016, quand elle a été créée, fusion de la prime pour l'emploi et des aides, 4 milliards d'euros, pardon. Aujourd'hui, c'est 6. On voit bien qu'en 2 ans, il y a eu 2 milliards de primes d'activité en plus. Alors qu'on a une croissance économique et des créations d'emplois en plus. Il y a un système qui fonctionne assez mal, parce que pour autant, on n'a pas sorti des milliers de personnes de la pauvreté.
Vous confirmez donc l'hypothèse sur la table, ça vous paraît pertinent, de réviser le système de calcul ou d'attribution de la prime d'activité. Je voudrais aller plus vite, parce que si vous permettez, il y a des questions encore sans réponse. Par exemple, l'APL, est-ce que c'est une prestation sociale individuelle?
Alors c'est différent, c'est une aide au logement.
Ça ne fait pas partie des prestations que vous ne toucherez pas pendant le quinquennat.
Non, mais par exemple, Madame Martichoux, il n'y aura pas de baisse des APL. En revanche, il y a un système que Julien Normandie et Jacques Mézard mettent en place en ce moment, qui est la contemporanéisation des APL. Aujourd'hui, les gens les touchent de manière non contemporaine. Ils en ont besoin.
Vous voulez dire l'année de référence qui est prise en compte pour
c'est
le
normal,
calcul.
Les Français doivent toucher les aides au logement le jour où ils en ont besoin et où leurs critères correspondent à cela. Aujourd'hui, il y a un décalage de plusieurs mois. C'est pas bon pour les gens, parce qu'ils reçoivent leurs appels de façon différente, et donc du coup, ils ont des problèmes de trésorerie. C'est pas bon pour l'État, parce que parfois, ils versent des appels à des gens qui ne méritent plus les avoir.
Et ce système-là, il peut être étendu à d'autres prestations, d'ailleurs, de réviser
calcul. En tout cas, pour les appels, c'est un système très compliqué à mettre en place, et on le met en place cette année, et c'est un travail très important que fait le ministère du Logement et la CNAF.
Il y aura des perdants et des gagnants.
Il y aura des gens qui toucheront les appels au moment où ils devront les toucher, et ce sera juste.
Sur l'ensemble, il y aura des perdants et des gagnants. Quand vous aurez arbitré sur.
Mais il y a des gens qui aujourd'hui touchent encore. Mais il y a aujourd'hui des gens qui touchent encore les appels alors qu'ils ne méritent plus de les toucher. Et dans le nouveau système, ils ne les toucheront plus. Puis il y a des gens qui devraient toucher les appels et qui ne les touchent pas parce qu'il y a un retard. Et ces gens-là le toucheront, ce sera juste.
Vous cherchez des économies, Gérald Darmanin. Baisse de 10% des effectifs des fonctionnaires à l'étranger, avez-vous dit. Vous avez fâché Jean-Yves Le Drian sur ce sujet?
Non,
les ambassades, les consulats, les missions.
Non, je ne crois pas. Le Quai d'Orsay n'est pas particulièrement touché. Le président de la République a dit là où il
n'est pas content. Vous confirmez. Il l'a dit.
Il y a des fonctionnaires qui savent que leurs effectifs augmenteront. C'est le président de la République l'a dit. C'est le cas de la police et de l'éducation nationale dans certains endroits, par exemple. Et puis, il y en a, y compris d'ailleurs au sein de mon administration, qui vont connaître une diminution d'emplois publics, parce que le président de la République, c'est un engagement qu'on entend assez peu répété par les ministres, mais effectivement, a dit qu'il baisserait de 120 000 le nombre d'agents de la fonction publique.
Donc vous confirmez en tout cas sur cette baisse-là,
10%. Je confirme que l'ensemble de l'État, quels que soient les ministères, ceux qui n'ont pas été vus comme des ministères qui augmenteraient, verraient les effectifs baisser, bien sûr.
10% des effectifs des fonctionnaires à l'étranger, ça c'est déjà dans vos tuyaux. Un mot encore, la dette de la SNCF, on n'a pas bien compris, dans le déficit ou dans la dette? Vous allez mettre
dans
les
dette.
35 milliards.
À partir du 1er janvier 2020, Madame Martichoux,
vous avez le droit d'orienter directement les 35 milliards vers la dette. Bruxelles vous a donné son accord.
Mais d'abord, nous travaillons effectivement pour qu'au 1er janvier 2020, on reprenne à peu près 25 milliards, et puis après 10 milliards de plus, effectivement, dans la dette. Et nous le ferons pourquoi? Parce que c'est ça qui est le plus intéressant. On le fait pour permettre à la SNCF, qui se sera transformée, de pouvoir emprunter sur les marchés sans avoir un gros sac à dos derrière lui, qui est celui de sa dette, qui l'handicaperait. Et pourquoi on le fait? Pour que les trains arrivent à l'heure. On ne le fait pas pour faire plaisir à telle ou telle demande catégorielle. La vérité, Madame Martichoux, c'est que, comme l'a très bien dit, et j'ai répondu à votre question la dernière fois ici, le Premier ministre, c'est bien le contribuable français qui va payer cette dette sans augmentation d'impôts, mais que nous devons diminuer la dépense publique, nous devons diminuer la dette, si possible, dès cette année, pour pouvoir que ces 35 milliards soient supportables pour le budget des Français. C'est
fléché,
mon travail.
C'est fléché donc vers la dette, ce sera a priori moins lourd tout de suite pour le contribuable. Bruxelles a dit oui.
Mais je laisserai Bruxelles et je laisserai le comptable national et européen répondre à vos questions. Ce qui est certain, c'est que depuis que je suis ministre des Comptes publics, vous aurez constaté que ni les comptables européens nationaux ni Bruxelles n'a retoqué le budget que j'ai pu présenter.
C'est une forme de réponse. En un mot, les cheminots doivent arrêter la grève.
Je respecte le droit de grève et le droit de manifester, mais je pense qu'il faut savoir arrêter une grève, comme disait l'autre.
Merci Gérald Darmanin.